Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude du prophète Ésaïe et nous allons lire ensemble le chapitre 62 et le début du chapitre 63. Mais je pense qu'il est utile, encore une fois, de bien situer ces derniers chapitres du prophète Ésaïe. Toute la deuxième partie d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 66, ont dans ce sens une double référence. Il y a d'une part le retour de l'exil du peuple d'Israël, des Juifs, à Babylone, un siècle d'ailleurs après la mort du prophète. Mais Ésaïe voit plus haut, il voit plus loin. Et toute cette dernière partie d'Ésaïe concerne un avenir futur dont, en fait, on fait partie. Le début de cette partie commence d'ailleurs au chapitre 40 avec les mots « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et ce texte est cité dans le Nouveau Testament par plusieurs évangiles comme étant une prophétie concernant Jean-Baptiste. Donc c'est le début, on va dire, de l'ère chrétienne. Et le chapitre 66, la fin de cette partie, termine avec les mots en effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. Donc, de Jean-Baptiste, en passant par Jésus, jusque dans la vie éternelle, c'est ça la partie de l'histoire qui est brossée par Ésaïe, bien au-delà du retour du peuple d'Israël dans son pays. Certes, au chapitre 60, on parle de la gloire future de Jérusalem, mais comme nous l'avons dit en étudiant le chapitre 60, ni dans les siècles qui ont suivi Ésaïe, ni du temps de Jésus, ni dans les siècles qui ont suivi, on a vu une telle gloire. Parce que Jérusalem représente bien autre chose. Dans le Nouveau Testament, Jérusalem représente le lieu de demeure, le lieu où Dieu demeure sur la terre. Nous avons cité Hébreux 12, par exemple, le verset 22, qui dit « Vous, chrétiens, donc, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges. » On dit que c'est là où sont assemblés les premiers-nés inscrits dans le ciel. Et on dit qu'il y a les esprits des justes parvenir à la perfection, parce que Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. En attendant l'aboutissement de l'histoire, que nous lisons dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, dans Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Ça, c'était le chapitre 60. Le chapitre 61 commence avec les mots « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, etc. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Et justement, Jésus, au début de son ministère, cite ces versets dans la synagogue de Nazareth, et il termine, alors que tous les yeux sont fixés sur lui, en disant « Aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit devant vos yeux. » C'est donc dans ce contexte que nous allons lire le chapitre 62, dans la Bible du Semeur, on lui donne le titre « Un rétablissement certain », dans le second 21, « Le salut de Jérusalem ». Je vais donc le lire. Ésaïe, chapitre 62. « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice, tous les rois ta gloire, t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à la terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel. On l'appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. L'Éternel a juré par sa main droite et par son bras puissant, « Je ne donnerai plus ton blé comme nourriture à tes ennemis. Les étrangers ne boiront plus ton vin nouveau, fruit de ton travail. Mais ceux qui auront récolté le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront vendangé boiront du vin nouveau dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, dégagez le chemin du peuple, préparez la route, enlevez les pierres, dressez un étendard vers les peuples. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive, il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Certes, le retour de l'exil à Babylone n'est pas absent de ce texte. On peut voir dans ce texte une prophétie qui rejoint d'autres prophéties que le peuple va revenir à Jérusalem. Mais la prophétie en général, on l'a souvent dit, c'est comme des montagnes. Quand on les voit de loin, je suis allé en Suisse, je sais de quoi je parle, toutes les montagnes sont à l'horizon, ils forment comme une chaîne de montagnes à l'horizon, mais en fait, quand on s'y approche, on comprend qu'une montagne peut se trouver derrière une autre montagne. Et dans la prophétie, c'est un peu la même chose. Il y a déjà un premier accomplissement, mais on va au-delà de cet accomplissement, et il y a d'autres accomplissements qui viennent par la suite. C'est une des marques de fabrique, on va dire, de la prophétie biblique. Donc ici, la gloire éternelle et qui nous concerne, et bien dans ce texte, il s'agit d'un nom nouveau, au verset 2, qui est explicité dans le verset 12, une ville non abandonnée, une ville recherchée. On t'appellera recherchée, ville non abandonnée. Et en fait, il ne s'agit pas principalement de briques, de murs, de portes, mais de personnes et de leur relation avec Dieu. Deux groupes de versets en particulier l'illustrent. D'abord, les versets 4 à 5. On n'est plus seul, mais marié. Le mariage dans la Bible, c'est l'illustration suprême de la relation entre Dieu et son peuple. Plusieurs reprises, les prophètes de l'Ancienne Alliance ont parlé de Dieu comme étant le mari du peuple. Et de la même façon, dans Éphésiens 5, par exemple, on voit que Christ est le mari de l'Église, qui est son épouse, jusque dans l'Apocalypse, où on parle encore de l'épouse qui attend son mari. Donc, l'Éternel prend plaisir en toi, tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, ou tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. C'est ça qui est intéressant dans la relation. Il ne s'agit pas d'une relation, d'un mariage arrangé, comme on dit des fois. Non, c'est un mariage d'amour, où le peuple de Dieu fait sa joie. C'est une illustration parfaite de cette relation entre Dieu et son peuple. Voilà donc le premier groupe de versets. Le deuxième, c'est la fin du chapitre, les versets 11 à 12, où on dit que nous sommes un peuple saint, que nous sommes les rachetés de l'Éternel, et le verset 10 le précise, cela concerne aussi les nations. Dressez un étendard vers les peuples. Et verset 11 dit qu'il faut l'annoncer aux extrémités de la terre. En attendant ce dénouement de la Jérusalem céleste, dont il sera question surtout au chapitre 65 et 66, Ésaïe décrit l'attitude des croyants. Il faut que les croyants parlent, il faut que les croyants prient, il faut que les croyants agissent. Et donc ça, c'est encore une exhortation qui nous est adressée. Deux groupes de versets l'illustrent bien. D'abord, le début de ce chapitre 62, « À cause de Sion, je ne me tairai pas. » C'est un peu comme dans les Actes des Apôtres, où les apôtres n'ont pas voulu taire le sujet de Jésus. On les a mis en prison, on les a menacés, mais non, là c'était la désobéissance civile, si on veut. On doit, bien sûr, nous soumettre aux autorités, mais pas lorsqu'ils nous disent nous taire. Là, on a le droit de parler, en acceptant les conséquences, bien sûr. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Il faut que l'on parle. Il faut que l'on parle. Il faut que les nations voient sa justice. Ils voient que les rois voient sa gloire. Et donc, nous avons le droit, le devoir même de parler autour de nous de ce que le Seigneur est en train de faire. Agir, parler, mais aussi prier. Le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Et vous qui êtes chargés de la rappeler éternelle, ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse-t-elle un sujet de louange sous la terre. Donc, les chrétiens sont appelés à veiller et à prier, de dire en quelque sorte, que ton règne vienne, Seigneur, établis ton règne, appelle à toi les élus, fais en sorte que ton royaume arrive. On peut se réjouir que nous vivons cette époque de la moisson, mais en même temps, on ne doit pas accorder, selon ce terme très osé d'Ésaïe, on ne doit pas laisser de repos à Dieu tant qu'il n'a pas accompli son œuvre. C'est une expression très audacieuse, mais on peut comprendre dans le Nouveau Testament, Jésus a enseigné à plusieurs fois qu'il faut prier et ne pas nous relâcher jusqu'à ce que vienne la réponse à nos prières, et notamment que ton règne vienne. Donc voilà quelque chose qui peut nous réjouir profondément, de savoir que Dieu est à l'œuvre, il prépare sa demeure éternelle, et que nous ferons partie de cette demeure, nous aurons notre place dans cette demeure éternelle, qui est la Jérusalem céleste, la Jérusalem éternelle. Puis tout d'un coup, de façon tout à fait abrupte et inattendue, c'est le thème du jugement qui fait irruption. Je vais lire le chapitre 63, du verset 1 au verset 6. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci, éclatant dans sa tenue? Il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui a le pouvoir de sauver. Mais pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve. J'étais seul à travailler au pressoir, sans personne d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sali tous mes habits. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a assuré de salut, ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère, j'ai rendu ivre dans ma fureur, et j'ai fait couler leur sang par terre. Comme j'ai dit, après cette description formidable de cette nouvelle Jérusalem, que le mari qui prend plaisir en son épouse, que nous ferons la joie de notre Dieu, tout d'un coup, changement de ton, un jour de vengeance surgit au verset 4. Et cela nous rappelle en fait que lorsqu'on avait lu le chapitre 61, il y avait une partie de ce texte qui était citée par Jésus. Vous rappelez, quand il était dans la synagogue de Nazareth, il a cité, comme je dis tout à l'heure, le début de ce chapitre 61. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus a lu le texte, dans le rouleau de la loi, jusqu'au milieu du verset 2, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Il est vrai que nous vivons à l'époque de la grâce. Et Jésus n'est pas allé plus loin. Mais la suite de la phrase, c'est « un jour de vengeance de notre Dieu ». Chaque chose en son temps. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais le jugement est bien là. Jésus est quand même le juge. Et un jour, il sera associé au jugement final de la terre, où chacun aura à rendre compte. Parce que finalement, la gloire éternelle implique aussi le jugement. On peut dire dans ce sens, c'est pile et face dans la même réalité. Et dans ce chapitre 63, on le voit deux fois. Dans la même phrase, verset 1, à la fin du verset 1, « C'est moi qui parle avec justice et qui ai le pouvoir de sauver. » Donc il y a justice et salut, les deux aspects. Et puis au verset 4, « En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur, mais l'année de mes rachetés était arrivée. » Regardons un petit peu donc ce texte. Ce texte est écrit avec le langage apocalyptique. Tout n'est pas à prendre forcément au pied de la lettre. Que voit Ésaïe ? Il voit quelqu'un arriver depuis Édom, depuis Botsra. Il faut dire que Édom était une nation traditionnellement hostile à Dieu, et donc il représente en quelque sorte ici la rébellion de toute la terre. Et en plus, le mot Édom signifie rouge. Donc cette personne qui arrive d'Édom a les habits rouges. Et on voit que c'est pour deux raisons. D'abord, c'est parce qu'il dit, j'avais les pieds dans la cuve pour écraser le raisin, après la vendange. Ça a éclaboussé ce liquide rouge des raisins écrasés, mais on voit plus loin qu'il s'agit encore du sang des peuples qui a jailli sur ses vêtements. Ça, c'est le verset 3. Leur sang a jailli sur mes vêtements, j'ai sali tous mes habits. Et justement, dans l'Ancien Testament, on parle souvent de la colère de Dieu qui cuve en quelque sorte. On parle de la coupe du jugement que les gens doivent boire. Et le sang finalement représente la mort. Le sang, c'est la mort. Quelqu'un qui perd tout son sang est mort. Le jugement, finalement, c'est la mort. La mort physique, certes, mais aussi, surtout, la mort spirituelle, d'être séparé de Dieu. Et seul Dieu peut le faire. Il a dit au verset 3, « J'étais seul à travailler. » Au verset 5, « Il n'y avait personne pour m'aider. » Parce que lui garantit, en quelque sorte, la justice de ce jugement. Petit mot sur le mot « vengeance », parce qu'on peut mal comprendre. Le verset 4 dit « En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur. » Quand on parle de vengeance aujourd'hui, ça ne veut pas dire exactement ce qui est visé ici. Selon le dictionnaire, j'ai trouvé la définition que la vengeance est l'action dans le cadre d'une justice privé de nuire à une autre personne, un groupe, dans le but de punir ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. C'est-à-dire que la vengeance est un acte privé. La vengeance ne se fait pas dans le cadre de la loi, ce n'est pas devant un tribunal qu'il y a la vengeance, c'est un acte personnel contre quelqu'un qu'on estime avoir lésé à mes intérêts ou à quelqu'un qui m'aurait nui d'une façon ou d'une autre. Donc, dans le langage d'aujourd'hui, la vengeance est opposée à la justice. Mais Dieu est la source de la loi. On ne peut pas distinguer dans un sens les deux, parce que quelqu'un qui désobéit à Dieu est à la fois coupable sur le plan moral et légal, mais en même temps coupable d'une sorte d'injure envers Dieu. Il est insulté parce que le Tout-Puissant n'est pas respecté et honoré comme il se doit. Mais la notion de jugement dans la Bible est à la fois terrible, mais dans un sens positif. Ça veut dire que le monde n'est pas sans fondement moral. Quand on voit toutes sortes d'injustices, des personnes qui apparemment s'en tirent sans être condamnées par la loi, on peut dire, mais où est la justice? Les gens n'échapperont pas au principe que l'on doit rendre des comptes à Dieu pour tout ce que l'on a fait dans la vie. Cela veut dire qu'il y a véritablement un socle moral à l'univers, même si Dieu laisse faire, en partie, parce que s'il intervenait d'ailleurs pour Jésus tout de suite, qui pourrait résister? Qui tiendrait devant sa colère? Et je répète aussi, pour bien comprendre aussi, comme vengeance n'est pas à comprendre dans le sens d'aujourd'hui, la colère n'est pas quelque chose qui déborde. La colère, c'est l'opposition farouche et persistante à Dieu face au mal. Donc, la justice de Dieu, dans ce sens-là, est positive. Sauf que nous sommes tous coupables. Et c'est là où, nous, chrétiens, Dieu nous a montré la seule issue, c'est que Dieu nous donne sa justice. Le pardon existe. Et là, je vais revenir au verset 4 de ce chapitre 63. « En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur, et l'année de mes rachetés était arrivée. » Dans la version du Semeur, c'est traduit, « J'avais fixé le jour de la rétribution, mais elle est venue aussi, l'année de la libération de tous les miens. » Donc, il y aura un jour de jugement, on y échappera non pas à cause de nos mérites, mais parce que Dieu a prévu une sortie pour ceux qui se repentent, qui reconnaissent leur péché, qui se détournent du mal. Et c'est Ésaïe lui-même qui le dit tellement clairement dans ce chapitre célèbre, le chapitre 53. Je lis par exemple, ce sont nos souffrances que le serviteur a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La punition qui nous donne la paix, ou le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. C'est Jésus qui a porté le châtiment de notre péché. Ce châtiment ne nous tombera pas dessus. Et c'est pour cela que je reviens à Ésaïe 62-63. Les deux aspects de la fin du monde, c'est la gloire éternelle pour les croyants, c'est le jugement juste de tous ceux qui n'émettent pas leur confiance en Dieu et notamment en Jésus, leur Sauveur. C'est un choix avec des conséquences énormes. Il est vrai que dans notre monde aujourd'hui, on y pense guère. C'est pour ça que, justement, je reviens au début de ce chapitre 62, justement, à cause de Sion, je ne me tairai pas. Le moyen par lequel Dieu veut communiquer cela au monde, c'est par le témoignage des chrétiens envoyé aux quatre coins de la terre pour apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Que nous soyons trouvés fidèles pour annoncer cela et pour prier en accordant à Dieu aucun répit, comme il dit, pour qu'il rétablisse Jérusalem et que tout cela soit un sujet de louange sur la terre. C'est dans le verset 7 du chapitre 62.